Vous écoutez France Musique.
Merci Stéphane Goldet. Nous vous retrouvons la semaine prochaine pour un nouveau Prima La Musica.
Chut,
ça commence.
Oreilles encornées, vous que j'allais oublier, il paraissait si bien faite pour recevoir nos confidences.
Danse.
Les jours de bonheur, radieux de joie.
Très cher, bonsoir, c'est les greniers de la mémoire, comme tous les samedis de 18h à 19h, pour une plongée dans les archives sonores de la radio. Et aujourd'hui, l'émission va se faire sous la forme d'un concert d'archives, sous la direction du chef d'orchestre Manuel Rosenthal. C'est parti.
Veuillez profiter des quelques instants pendant lesquels les musiciens accordent leurs instruments pour accorder vos appareils. Quand tous les accords seront réalisés, la syntonie sera parfaite.
Alors les greniers, vous avez déjà fait écouter la semaine dernière Manuel Rosenthal qui parlait, qui racontait l'enseignement prodigué par Ravel, dont il avait été l'un des rares élèves. Il parlait de la composition, bien évidemment, et puis de sa vie gagnée dans les orchestres de cinéma avec, en 1934, son recrutement à la radiodiffusion et puis à la Libération, une nomination décisive pour la musique contemporaine à la tête de l'Orchestre National en 1934. L'ON, comme on l'appelait alors, Rosenthal l'avait connu dès le berceau puisqu'il avait été l'assistant de Désiré Émile Engelbrecht dès la fondation de l'orchestre en 1934. Et dès cette époque, Rosenthal s'était distingué en menant une politique assidue de création et un partage des tâches s'était en quelque sorte effectué entre Engel qui se réservait Debussy et Fauré et puis Rosenthal qui se lançait à corps perdu dans la musique contemporaine. Alors en 1944, lorsque Rosenthal va prendre les rênes de l'orchestre, puisqu'Engelbrecht est écarté par des mesures d'épuration, eh bien le jeune chef va s'employer activement à rouvrir la radio de l'après-guerre aux compositeurs qui avaient été interdits par le nazisme, comme par le régime réactionnaire de Vichy. Et alors il va accueillir toutes les voix nouvelles de la création, principalement française, mais pas seulement. Cet écuménisme musical, comme je le qualifie souvent pour parler de cet âge d'or de la radio, Manuel Rosenthal va donc en porter haut et fier les couleurs. Et on le voit d'ailleurs d'après les listings dans les archives de l'INA. Rosenthal défend en effet ardemment la création. Il ouvre les premières saisons d'après-guerre avec des festivals emblématiques de cette volonté de renouveau. Et il y a un cycle Prokofiev, il y a un cycle Bartok, il y a une série Millau. Et il va également saluer aussi le talent de ses comparses et amis qu'il avait côtoyés dans la résistance musicienne et qui avaient composé des œuvres sur des poèmes clandestins, comme Francis Poulenc. On va justement écouter Poulenc qui, pendant la guerre, avait composé Les animaux modèles. Ici, nous sommes le 2 février 1956. Rosenthal est à la tête de l'Orchestre national et nous écoutons donc un extrait des animaux modèles, ce ballet d'après les fables de La Fontaine.
Thank you.
Thank you.
C'était Les Animaux Modèles, ce ballet d'après les fables de La Fontaine de Francis Poulain, que vous écoutiez Le Lion Amoureux, L'Homme entre deux âges, Les deux coqs et Le repas de midi. C'était Manuel Rosenthal qui dirigeait l'Orchestre national de la RTF au Théâtre des Champs-Élysées le 2 février 1956, une archive de l'INA. Alors, la politique menée par Rosenthal à la tête de l'Orchestre national, en faveur de la musique de son temps, eh bien, ne va pas s'enfroisser quelques esprits chagrins qui préfèrent les sempiternelles symphonies de Beethoven. Les compositeurs vont prendre la défense de leur porte-drapeau, ainsi Arthur Honegger, dans un article paru dans Labyrinthe en mars 1945, qui choisit direct le mode de l'attaque et qui se gausse de la faible imagination des saisons de concert. Je vous cite un extrait de cet article qui est assez intéressant. Les récitals de solistes n'ont subi aucune modification. Le festival Chopin succède inlassablement au festival Chopiniste, tout comme par le passé. Dans les associations symphoniques, les mêmes noms se retrouvent sur les programmes dans le même ordre. Un seul est nettement mis à l'index, celui qui s'étalait de façon continue depuis si longtemps, celui de Richard Wagner. C'est donc lui, le bouc émissaire, c'est donc sur lui que se concentre la réaction anti-germanique. Mais en dehors de ce banni, la base des concerts est toujours le romantisme allemand. J'avoue être un peu épouvanté devant l'inertie incroyable qui domine le monde musical et qui ne se retrouve dans aucune autre catégorie des choses de l'art. On s'intéresse à la peinture, on lit les jeunes littérateurs, on veut de nouvelles œuvres dramatiques. La seule activité musicale reste immuable, axé à tout jamais sur l'époque Beethoven-Wagner. Le monde entier est en guerre, on joue les mêmes programmes qu'avant. La paix reviendra-t-elle ? On jouera les mêmes œuvres que pendant la guerre. Dieu, que les gens sont ennuyeux, concluait Arthur Honegger. Eh bien, pourtant, en dépit de ces salles, parfois houleuses, à la radio ou au Théâtre des Champs-Élysées, Rosenthal et le directeur de la musique d'alors, le compositeur Henri Barrault, vont suivre cette ligne avant-gardiste et vont programmer de la musique contemporaine tous azimuts, musique française, bien sûr, mais également des œuvres de compositeurs d'Europe centrale qui étaient venus à Paris dans les années 20 et qui formaient alors ce que l'on appelait l'École de Paris, avec qui Barrault avait été en relation dans le cadre des concerts de l'association appelée Triton. Parmi ces musiciens, le Hongrois Tibor Arsani et le Roumain Marcel Mialovici. Ce dernier, comme Arsani, ne sont plus guère joués aujourd'hui dans les programmes. Et pourtant, il y a de belles œuvres. Et justement, je vous laisse juger sur pièce avec un extrait de la Sinfonia Partita de Mialovici. C'est toujours Rosenthal qui dirige à la tête de l'Orchestre national dans les années 1950, le 28 février 1950, exactement au Théâtre des Champs-Élysées. Et nous allons écouter le premier mouvement de cette Sinfonia Partita, l'Intrada et Cercare.
Thank you. Thank you.
Au Théâtre des Champs-Élysées, en 1957, Manuel Rosenthal dirigeait l'Orchestre national de la radio dans la Sinfonia Partita du compositeur d'origine roumaine, Marcel Mielovici, et vous écoutiez le premier mouvement de cette œuvre, l'Intrada Ericercar. Je vous citais tout à l'heure un article d'Honegger qui, en 1945, se plaignait de l'étroitesse d'esprit de la programmation musicale de l'après-guerre dans les orchestres symphoniques et saluait, en retour, la politique audacieuse de la radio, menée par le directeur de la musique d'alors, Henri Barrault, et puis menée également par le chef de l'Orchestre national, Manuel Rosenthal. Tous deux compositeurs, ces deux-là, évidemment, savaient de facto la nécessité de défendre la création. Cela dit, c'est Rosenthal, le chef, bien sûr, celui qui se présente au pupitre et devant le public, qui va concentrer toutes les critiques, davantage que Barrault. Et d'ailleurs, hein, Rosenthal va devenir un peu comme le fusible du directeur de la musique lorsque ce dernier va être attaqué par le pouvoir politique, inquiet des levées de boucliers contre la radio. En effet, Rosenthal est l'objet de critiques assez sauvages dans la presse de l'époque. Je vous épargne ces articles de presse. On l'accuse de vider les salles de concert avec sa programmation. Cela dit, il a des défenseurs, évidemment les compositeurs, et même Georges Auric, en 1946, va prendre la défense du chef attaqué dans une tribune parue dans les Lettres françaises. Je vous cite un extrait de ce texte. Quel doit être l'effort des concerts de la radio? Doivent-ils se contenter de nous présenter imperturbablement les mêmes programmes que nous déplorons ailleurs et que nous finissons seulement par excuser à la longue lorsqu'on nous a longuement démontré les difficultés d'exploitation actuelle d'une grande association symphonique? Je ne le pense pas et me refuse à l'admettre. Eh bien, de tels propos, moi, pour ma part, me semblent rester fort actuels. 70 ans plus tard, la radio serait en quelque sorte porteuse d'une mission particulière. Elle est en effet dégagée des soucis immédiats de rentabilité, à la différence des orchestres symphoniques français. Je vous propose, pour conclure ce concert d'archives, d'écouter une œuvre d'un compositeur mis à l'honneur très régulièrement à la radio française dans les années qui ont suivi l'immédiate après-guerre. Béla Bartók, le grand pianiste Andor Foldes, est ici l'interprète de son concerto pour piano et orchestre numéro 2. Nous écoutons donc en entier ce concerto en trois mouvements, Allegro, Adagio, Presto, più Adagio et Molto Allegro. Et c'est toujours Manuel Rosenthal qui dirige l'Orchestre national. Nous étions en février 57. Thank you. Le concerto pour piano et orchestre numéro 2 de Béla Bartók dans cette très belle interprétation de l'Orchestre national de la RTF dirigé par Manuel Rosenthal avec ce grand pianiste hongrois qui était Andor Foldes. Et c'était au Théâtre des Champs-Élysées le 28 février 1957, une archive de l'INA, dont remercions d'ailleurs chaudement l'INA pour ses trésors, ainsi que Tahar Boukhlifa aux manettes ce jour, à Christine Amado qui a réalisé les de la mémoire avec le concours de Françoise Monteil. La semaine prochaine, il sera question de Richard Wagner et de lettres assez obséquieuses, dirons-nous, écrites à son mécène, le prince Louis II de Bavière, des lettres qui seront lues par le comédien Laurent Poitrenaud. Puis nous aurons le plaisir de retrouver le cabinet de curiosité de François Roulman, intitulé « Des maladies wagnériennes ». Avec un tel titre de chronique, on peut tout imaginer. Alors la semaine prochaine, et d'ici là, les greniers sont disponibles en podcast. À très bientôt.